Et voilà, toujours en direct du domaine de Montels à Albias. C'est la 15e édition de cette fête des vendanges. Comme d'habitude, l'après-midi, ça chauffe, hein, forcément, il fait beau. Encore une fois, quelques nuages, quelques jolis cumulus sont de passage, mais rien de dangereux. Il fait vraiment une très très belle après-midi au-dessus d'Albias et du Tarn-et-Garonne et du domaine de Montels. Et on continue de vous faire vivre en direct cette très très belle journée. Là, il y a une nouveauté cette année, l'association Page après Page a invité une dizaine d'auteurs à venir ici rencontrer leur public. Dizaine d'auteurs régionaux qui travaillent en tout cas sur ce qu'on appelle des romans régionaux, c'est-à-dire des romans qui sont... géographiquement ciblé. Et donc de suite il y en a une qui dit non, pas du tout, c'est Marie-Chantal Guilmeur, et comme de toute manière je dois par politesse la présenter en premier, je vais déjà lui donner la parole. Marie-Chantal Guilmeur, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Vous faites pas du tout dans le roman
Non, c'est pas ça, c'est que on ne présente pas que du terroir, voilà, aujourd'hui on présente aussi j'ai un livre qui se passe en Autriche, c'est un terroir autrichien.
Ah oui, c'est autrichien, ouais.
Puis après, bon, je parle de la Shoah aussi, ça concerne, bon...
Ouais.
Mais c'est vrai que la plupart sont...
Mais je pense que mon voisin de droite, Georges Patrick Glaise, parle aussi de grands événements qui sont mondiaux.
Exactement, oui,
mais... dans l'action se déroule peut-être dans la région, c'est un peu ça, non?
À moi, celui de l'Autriche, il se déroule à Paris et à Salzbourg.
Ça, c'est le dernier.
Voilà.
Mais ceux d'avant?
Ceux d'avant, un peu plus.
Je le reconnais. Vous voyez, non, mais commencez pas à m'embrouiller. Merci d'être là, Marie-Chantal Guilmeur. Vous êtes édité chez Ramsay. Je le dis parce que ça a son importance, ça va amener la discussion qu'on va avoir après. Georges Patrick Claise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes édité chez Calmin Lévy et Albin Michel.
Oui.
Le dernier ouvrage, c'est chez Calmin Lévy.
Chez Calmin Lévy.
Et alors, c'est un ouvrage qui s'appelle...
Le Crépuscule des Justes.
Le Crépuscule des Justes. C'est pour ça aussi que je parlais d'un événement mondial, mais que vous faites se dérouler dans la région.
Oui, ce sont des romans historiques qui mêlent la grande histoire et la petite, l'histoire de tous les jours, l'histoire des gens. Et ce sont des romans qui cherchent à apporter quelque chose à leurs lecteurs, vieille déformation de l'enseignant que j'ai été.
D'accord. Adrien Anderson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes édité chez Le Chapeau Noir et Prémédite.
Tout à fait.
Donc on va dire maison d'édition plus modeste. Hein, petite
ce
et moyenne
appelle
édition.
La petite et moyenne édition, tout
d'accord.
À fait.
D'accord. On s'est déjà parlé à plusieurs reprises pour certains de vos romans. Ils sont plutôt des romans de science-fiction, hein, c'est ça?
Non, le dernier, c'est un polar à cheval thriller, et celui d'avant, c'était dans le genre fantastique.
Ah oui, pardon, fantastique, science-fiction, c'est pas le même genre, effectivement. Et vous, ce qu'il y a de local, c'est vous, hein, parce que vous habitez le Tarn-et-Garonne.
Exactement. mais les romans sont toujours ancrés dans un terroir, pas forcément le terroir d'Occitanie, mais on a toujours des sources d'inspiration quelque part, et bien souvent c'est dans notre vie et notre terroir.
Alain Roquefort, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là également. Votre dernier ouvrage est édité chez Neobook.
Oui.
Une petite maison d'édition qui est située où?
Qui se situe à Tours, dans les environs de Tours.
D'accord. Et vous, votre ouvrage, c'est aussi dans l'esprit roman terroir ou pas?
On peut éventuellement le concevoir de cette manière-là. C'est un roman qui se déroule dans un massif montagneux de l'Alaric, qui est un...
C'est pas loin d'ici, l'Alaric, c'est quand on va à la Méditerranée.
Voilà, je vois que vous allez souvent à la mer.
Il y a un joli terroir de vin autour, puisqu'il y a les Cabardès qui sont pas loin, il y a le Minervois, il y a les vins de l'Aude.
Je vois que vous connaissez les bons crus de la région, et les Corbières notamment.
Et le Corbière, évidemment.
Oui, ça se situe dans ce coin-là.
D'accord.
C'est un petit huis clos, une famille un peu particulière, avec un enfant... qui est atteint d'une phobie, à mon avis, unique. Enfin, pas unique, puisque j'en parle. mais bon, le roman, après, va amener à essayer de... Enfin, du moins, un enseignant qui vient faire ses cours à domicile va se pencher sur le passé de l'enfant, et notamment de la famille, surtout.
D'accord. Voilà. Alors, on va peut-être justement faire un rapide tour de table sur vos derniers romans, leur titre, le synopsis. Donc, vous venez un petit peu de nous le dire, mais continuez, oui. Puisque vous avez la parole. Le titre du roman, c'est...
Le titre du roman, c'est Un cri dans la nuit. C'est donc l'histoire de cet enfant avec une vie très, très particulière. Cette phobie dont je parle dans ce livre... s'applique pour lui, il ne supporte pas l'air extérieur et il est terrorisé par la nuit, donc ça l'oblige à vivre dans une maison avec les fenêtres constamment fermées et une lumière artificielle pour la nuit, sinon il panique. Et un jour, un nouveau professeur va arriver et va se pencher sur la phobie de cet enfant et surtout se demander pourquoi cet enfant est atteint de cette phobie à partir de l'âge de 4 ans, alors qu'auparavant il était un enfant comme les autres, un enfant normal.
Ça sent le vécu ?
Pas du tout.
Pas du tout.
C'est une fiction complète.
Complètement.
Tout à fait. Ça m'a bien sûr amené à m'interroger sur les phobies, à essayer de les appréhender un peu. Et je n'ai jamais trouvé cette phobie-là. Donc c'est moi, je suis
l'auteur. Donc vous avez inventé, vous êtes l'auteur d'une nouvelle phobie qui n'existe pas, d'accord.
Tout à fait.
Marie-Chantal Guillemin, votre dernier roman s'intitule
L'inconnu de Salzbourg.
Ouais. Donc ça se passe en Autriche,
vous voilà, ça se passe. Bon, c'est, j'écris ce livre pour déjà parce que je suis une amoureuse de Mozart. Et j'écris, je suis étant journaliste et historienne, j'ai l'habitude d'écrire des livres plus durs. Plus
difficile à lire,
notamment, voilà. Donc j'avais envie un peu, dans l'air du temps, de donner un petit peu de bonheur, un petit peu de un bol d'air, quoi, ouais, au lecteur. Et je les emmène donc avec moi en Autriche. C'est une petite, enfin une jeune Parisienne qui trouve une photo d'un petit musicien dans un meuble. Et tout le livre, en fait, c'est l'énigme, c'est elle va rechercher ce petit musicien. Ça va l'amener donc en Autriche, à Salzbourg. J'ai mis de l'amour, bien sûr, parce que l'amour, ça fait partie de la vie. Et donc, c'est un livre voilà, qui est assez... comment dire, qui... Pas qui prend pas la tête, mais qui fait réfléchir quand même, mais qui donne voilà, un bol d'air.
D'accord. Et évidemment, vous l'avez situé en Autriche, parce que vous connaissez bien l'Autriche.
Ah, je connais Salzbourg, c'est... Voilà. Allez-y, un jour, c'est bien.
Georges-Patrick Glaise, votre dernier roman ?
Le Crépuscule des Justes, c'est mon 18e roman.
Ouais.
Il paraît chez Calman Levy. Et c'est un roman sur le thème de l'identité, l'histoire d'un monsieur qui, à la quarantaine, cherche un peu d'où il vient, l'histoire de son père, pour mieux éclairer les pas, faire savoir vers où il va. Donc c'est un roman qui est plein d'histoire, mais aussi plein de réflexions sur son destin, et qui comporte également une histoire d'amour, puisqu'il a rencontré une jolie dame, au passage. Et il y a dedans un côté un peu polar, dans la mesure où il y a une intrigue, car en effet cette recherche va l'amener à découvrir une machination qui remonte aux années 42, et qui aboutit en 1962, 20 ans plus tard, à un crime. Donc il y a un côté un peu polar là-dedans, c'est vrai.
Le Crépuscule
des Justes,
c'est...
C'est une sortie nationale, puisque c'est aujourd'hui le premier jour où il est...
Aujourd'hui ?
Aujourd'hui.
Dans l'actu, voilà. Trop bien. Adrien Anderson, vous, votre dernier roman, il est chez Prémédite, hein, c'est celui-ci ?
Tout à fait, Le Cercle de Sept.
Ouais.
C'est une fiction qui met en scène un jeune inspecteur de police qui va être confronté à des meurtres, et qui plus est, des meurtres en série. Et donc il va tenter de l'arrêter. Il va découvrir que ce meurtrier en série est aussi le gourou d'une secte internationale. Et contrairement à ce qu'on pense, en réalité, c'est le meurtrier en série qui va se rapprocher de l'inspecteur. Et on va partir jusqu'en Pologne, en Terre Sainte, avec un dénouement que je ne citerai pas.
Bon. Alors j'aurais pu vous demander d'où vous était venue cette inspiration, mais c'était le sujet du précédent plateau avec les autres auteurs qui sont présents avec vous sur cette fête des vendanges du domaine de Montels. J'ai choisi d'avoir une autre discussion avec vous parce que ce plateau de quatre auteurs, je le trouvais intéressant par le mode d'édition que vous avez de vos ouvrages. Calmin Lévy, Ramsay, deux très grandes maisons d'édition que tout le monde connaît, qui passent avec peut-être une force de frappe, une force de distribution relative à leur notoriété. Et puis, des plus petites maisons d'édition, Prémédite ou Néobook. Alors, j'aimerais savoir, dans votre parcours, les uns et les autres, si vous voulez bien, me raconter, en fait, comment... on arrive à se faire éditer chez Calmin Lévy, chez Ramsay, si on en rêve quand on est chez Prémédite et chez Néobook, et si il vous est arrivé de faire ces démarches-là, et quelles sont les démarches que vous avez faites. Alors, je ne sais pas, encore une fois, la politesse m'oblige, Marie-Chantal Guillemin, à vous donner la parole en premier.
Bon, comment on y arrive, ça ? Oui, je pense que...
Vous, c'est votre premier roman chez Ramsay, hein. Les autres étaient chez des maisons d'édition...
Des moyennes maisons d'édition, ouais. Comme... disons que... Bon, moi, je vais sortir mon prochain dans un mois et demi, hein, dans un mois, là. Chez Ramsay aussi.
D'accord.
Alors, voilà, on en rêve tous, oui. Mais on en rêve... Pourquoi ? Parce que, justement, vous l'avez abordé, c'est la distribution. Quand votre livre, il est dans les librairies, bon, c'est déjà... c'est bien. Tandis que quand la distribution est moins bonne, ouais. Il faut beaucoup plus s'investir au niveau des libraires, aller les voir. Enfin bon, s'il y en a quelqu'un qui le fait pour vous, ce qui est mon cas, c'est encore mieux. Mais sinon, il faut vraiment se dépatouiller tout seul. Et voilà, au départ, il faut... De toute façon, ce métier, c'est une passion. Tous ceux qui sont autour de la table me diront pareil. Si vous n'êtes pas passionné, c'est un parcours du combattant, donc vous n'y arriverez pas.
Votre ouvrage que vous avez proposé à Ramsay, c'est le premier ouvrage proposé qui a été pris, ou bien il y en a eu d'autres avant ?
L'inconnu de Salzbourg ?
Ouais.
C'est eux qui me l'ont demandé.
D'accord.
Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que mon ouvrage avant, Elsa Z, qui est sorti aux éditions Quessac, qui est une moyenne édition, il a reçu le prix Grand Thor pour la mémoire de la Shoah. Et c'est Serge Klarfeld qui me l'a donné. Alors, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de certains des éditeurs. Et ils ont appelé mon agent. Ils m'ont demandé les synopsis que j'avais. D'accord. En réserve. Et je leur ai dit, dans celui-là. Et ça fait que je l'ai écrit en sachant que j'allais l'éditer. Ça, déjà, pour l'auteur, c'est comme pour le prochain. Bon... je savais qu'il serait édité aussi. Mais ça, c'est un confort. Et ça n'a rien à voir avec la valeur des livres.
Bien sûr.
Parce que vous avez des auteurs qui sont dans les grandes maisons d'édition et qui ne sont pas spécialement des grands auteurs. Et vous avez des auteurs qui sont dans des petites maisons et qui sont mais qui ne sont pas desservis par le système.
Alain Roquefort, vous êtes chez Neobook. Oui. Est-ce que vous en rêvez d'être chez Calvin Lévy, Albin Michel ou Ramsay ?
Je ne sais pas. Je pense, contrairement aux personnes qui sont sur ce plateau, je pense avoir fait le chemin inverse, puisque en 2014, j'ai remporté le Grand Prix Femme Actuelle et j'ai été édité par une grande maison d'édition. Et je n'ai pas voulu poursuivre avec cette maison d'édition. D'ailleurs, je ne la citerai pas.
D'accord, donc on sent que ça ne s'est pas forcément bien passé.
Ça s'est assez mal passé. Mais j'ai obtenu un divorce à l'amiable, donc j'ai préféré partir.
Ouais. Qu'est-ce qui peut mal se passer ? Éclairez-nous, sans forcément rentrer dans les détails, mais
Tout simplement des problèmes relationnels, des problèmes relationnels qui étaient dus à une incompréhension entre un éditeur qui ne faisait pas son métier d'éditeur et puis un caractère différent du mien. Donc je ne voulais pas envenimer la situation, j'ai préféré partir.
Éclairez-moi, le rôle de la maison d'édition, évidemment, c'est d'accompagner, c'est d'éditer, c'est de distribuer, mais c'est aussi à un moment d'aider peut-être à la correction, à la mise en forme, de reprendre. On vous dit, bon, là il est bien, mais la page 45 à la page 62, tu pourrais peut-être le condenser en un paragraphe, ce genre de truc.
Alors justement, ce que vous dites est vrai, mais je l'ai rencontré dans la deuxième maison d'édition, et non pas dans la première qui, à mon avis, était basée sur un chiffre d'affaires. C'était un homme d'affaires qui gérait cette maison d'édition, qui la gère toujours d'ailleurs, et qui ne m'apportait absolument rien en termes de critiques ou de conseils.
D'accord.
Et moi, je ne recherchais absolument pas ce genre.
Vous vouliez du conseil, de l'accompagnement.
Alors, bon, il faut dire aussi que pour le premier roman qui a été récompensé par ce Grand Prix, j'étais tenu avec cet éditeur par un contrat qui m'obligeait à écrire deux autres livres avec lui. Ce contrat, déjà, me déplaisait fortement, mais... Quand on gagne un grand prix, on ne peut pas se permettre de refuser.
Ouais, ouais.
Et j'ai eu toutes les peines du monde à obtenir un divorce à l'amiable, on va dire, parce que justement, je ne retrouvais pas ce que je recherchais. Et je pense que les personnes qui sont ici aussi ont quand même envie ou besoin d'avoir des conseils sur la suite à donner sur un roman, et sans avoir être critiqué, mais au moins conseillé. Et je n'avais pas ça chez cette maison d'édition.
D'accord. Georges Patrick Glaise, vous, donc 18e roman dans de grandes maisons d'édition depuis...
C'est un peu différent. J'ai jamais été que chez les grandes maisons d'édition. Je suis rentré directement chez Albin Michel en envoyant un roman par la poste. Et
en quelle année?
Il y a 20 ans.
Il y a 20 ans. D'accord, c'est pas si vieux.
Je connais bien le monde de l'édition maintenant. Et disons que j'en connais tous les petits détails. C'est vrai, une grande maison d'édition, ça a un avantage, ça a une force de frappe considérable en termes de diffusion. Moi, c'est Hachette qui me diffuse. Bon, Hachette, c'est le plus gros éditeur français. Hein. Donc, en termes d'impact, c'est énorme. Mon roman, là, est d'ailleurs mis en vente à des milliers d'exemplaires.
C'est 15 000 exemplaires tirés,
à peu près. 20 000, c'est énorme. Donc, il va y avoir des éditions successives. Normalement, si tout va bien, au mois de décembre, on va être à la troisième ou quatrième édition, à peu près. Hein. Logiquement. Donc moi, je suis suivi de très près par un attaché de presse personnel. J'ai des correctrices orthographiques, stylistiques qui me suivent. Bon, j'ai pas eu tout dans la même démarche. Hein. Bon, c'est différent. Je connais la démarche des petites maisons d'édition. C'est des démarches qui sont difficiles.
Ouais.
Difficiles. Je la connais par mon épouse qui est écrivaine dans une petite maison d'édition. Donc je mesure bien la différence qu'il y a et toute la difficulté et le courage qu'il faut pour avancer, pour se battre au quotidien. Parce qu'avec son éditeur, c'est jamais une relation facile. C'est toujours une relation, comment dirais-je, d'amour et d'affection, qui est compliqué par le fait qu'il y a un rapport financier derrière.
Hey.
C'est ça qui complique. C'est une histoire d'amour avec un rapport financier. Donc, à la base, quelque chose, il y a un peu quelque chose de pervers un peu dans la relation, qui fait que on est un peu gêné aux entournures parce qu'on a toujours l'impression que les éditeurs, ils donnent pas assez, soit de conseils, soit d'argent, etc. Bon, on est toujours dans cette problématique-là. Donc, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, les éditeurs ont changé de format et de manière d'être. Ça, c'est le fruit de la révolution numérique. Tout le monde écrit. Hey. Trop de monde écrit. Si vous saviez les milliers de manuscrits qu'on reçoit tous les jours, c'est calamiteux. Ouais. Résultat, les trois quarts ne sont pas lus, d'ailleurs, ouais. Parce qu'on n'a pas le temps. Bon. Donc, automatiquement, ils prennent quelqu'un, ils tirent à très peu d'exemplaires et ils zappent et ils jettent. Ouais. On a beaucoup d'auteurs Kleenex, en fin de compte, on fait un roman, deux romans, ça n'a pas bien marché, les chiffres de vente ne sont pas à la hauteur des espérances. Hop, allez, clac, ouais. On change.
En tout cas, être chez un éditeur, que ce soit chez un très grand comme vous, en envoyant un manuscrit il y a 20 ans, ou chez un petit et moyen, c'est quand même déjà une marche de franchie que beaucoup aimeraient pouvoir franchir. Adrien Anderson, donc vous êtes chez Prémédite. Comment ça se passe, vos relations justement avec votre maison d'édition, et comment vous êtes rentré en contact avec?
Alors, je pense que vous l'avez bien résumé, c'est-à-dire que quand on rentre dans l'édition, qu'elle soit grande, petite ou moyenne, c'est déjà une maison qui va prendre un risque financier pour vous. Donc ça, c'est important parce qu'en face, on se retrouve parfois avec de l'auto-édition, du compte d'auteur qui finalement est de la prestation de service, alors que dans l'édition traditionnelle, vous ne payez rien pour vous faire éditer. Ça, c'est important de le rappeler. Moi, je les vois plutôt complémentaires. La moyenne édition et la grande édition sont assez complémentaires parce que il va y avoir dans la moyenne édition aussi un rôle de découvreur de talent et qui permettra d'évoluer. Donc, c'est-à-dire, vous faites vos premières armes dans la moyenne édition et vous pouvez peut-être, pour les meilleurs, finir dans la grande édition. Pour revenir à ce que vous me dites, chez Prémédite, ils ont un fonctionnement un petit peu particulier. C'est que vous avez un pré-comité de lecture de 120 lecteurs qui vous demande les 10 premières pages. Si ça leur plaît, ils vous demandent la totalité du manuscrit. Et si le manuscrit plaît, ça passe entre les mains de l'éditeur et c'est l'éditeur qui prend la décision finale.
D'accord. Est-ce qu'il y a est-ce que vous êtes soumis à devoir vendre tant d'exemplaires de votre ouvrage?
Non.
Et sinon, c'est la porte?
Non. Sinon, devez vendre un minimum d'exemplaires, c'est plus de l'édition. Ouais. Ça devient de la prestation de service. Ouais, effectivement, il y a certains auteurs qui sont confrontés à ça, où ils doivent acheter tant d'exemplaires à leur éditeur. Ben, c'est pas de l'édition, en fait, ça.
D'accord. Et donc, vous avez souvent des contrats de 1, 2, 3 ouvrages qui sont ensuite renouvelés, pas pour vous.
Au début, j'ai eu ça, en effet.
Oui, c'est ça. Au début, on a ça.
Mais les droits de préférence, c'est pas légal.
Désolé, ah bon,
c'est pas légal.
Ah ouais.
Et moi, j'encourage les auteurs à ne pas les accepter. Ou bien le bouquin est bon et il passe la rampe, ou il est pas bon, mais on le laisse.
Exactement.
C'est tout.
Ouais. Voilà. J'ai pas l'emploi.
Mais il faut être clair là-dessus. Bon.
Mais on a quand même un contrat. Problème, si une fois qu'on est en contrat avec une maison d'édition, on doit fournir un peu comme dans les maisons d'édition.
Comme vous avez dit
tout à l'heure, Monsieur Roquefort, je crois que c'était vous. Vous aviez un contrat sur 3 romans, ouais. C'est ça?
Voilà, c'est écrit dans le contrat. Maintenant, à savoir si c'est légal ou pas, je ne peux pas vous l'affirmer. Je ne suis pas un juriste.
Ouais, vous savez.
Moi, c'était mon contrat qui était stipulé de cette manière-là. Mais comme disait Georges Patrick. Dans la maison d'édition, on ne recherche pas seulement le profit ou le nombre de livres vendus, on recherche aussi une relation d'amour, comme tu parlais, d'amitié peut-être, mais pas avoir derrière quelqu'un qui vous pousse pour obtenir des chiffres.
Oui, pour faire du chiffre.
Voilà. Et la deuxième maison d'édition que j'ai rencontrée, c'est l'opposé de la première, c'est-à-dire je peux discuter avec mon éditrice, elle me donne des conseils, on s'entend parfaitement. Et moi, je veux que l'écriture demeure un plaisir. Et je suis retraité aujourd'hui, je n'ai pas envie d'avoir une contrainte quelconque.
Oui, mais vous voulez être lu quand même, donc ça veut dire vendre aussi, être donc distribué.
Bien sûr, mais bon, le nombre d'exemplaires vendus m'importe peu, je vous l'avoue franchement. Moi, c'est le plaisir de l'écriture et une relation sympathique avec un éditeur, c'est tout.
Marie-Chantal.
Moi, je voulais rejoindre Georges Batry quand il dit moi, je suis un peu contre les. Comme lui, moi, j'ai pas de contrat. Je veux dire. Parce que. Un livre, eux, ils veulent que le livre soit bien aussi. Je veux dire, si vous faites un contrat de 3 livres et que vous envoyez n'importe quoi, l'éditeur, hein, il va dire non, excusez-moi, ça va pas, ça va pas passer. Même si vous avez le contrat, ça va pas passer. Alors qu'il y en a, notamment dans les petites maisons d'édition, qui vont vous le passer quand même. Pourquoi ? Parce que pendant 2 mois, vous allez le vendre à tout le monde que vous connaissez. Eux, ils vont avoir leur chiffre d'affaires, ils seront contents. Et après, ils vous diront au revoir, merci. Tandis que dans les grandes maisons d'édition, il ne faut pas avoir trop de livres à faire. Il faut qu'ils aient des coups de cœur aussi. Hein. Des coups de cœur. Et c'est comme vous disiez après, c'est une équipe. Avec son directeur littéraire, c'est une équipe. C'est ami, ennemi. Hein. Un jour, on est d'accord, un jour, on n'est pas d'accord. Mais ça reste fraternel. Du moment où c'est qu'il y a clash, il faut partir.
Alors... pardon, je vous ai coupé, Georges-Patrick.
C'est que l'auteur sache donner aussi une image de l'auteur dans laquelle le public puisse se retrouver. Donc la communication de l'auteur est très importante. Et moi, aujourd'hui, je passe pratiquement 2 à 3 heures par jour à faire de la communication, à travailler mes réseaux sociaux, à être journaliste, à rappeler son radio.
Alors justement, c'était ma question suivante. Vous anticipez sur ma question suivante.
Je travaille à mon attaché de presse au quotidien.
Georges-Patrick, c'est ça. Est-ce que ce travail-là, finalement, d'attaché de presse, enfin de relations publiques, de venir sur des salons, même si c'est un salon à la campagne, sur la fête des vendanges, rencontrer votre public, faire des signatures, vous asseoir en plein soleil avec un bon verre de vin, d'accord, mais quand même... Est-ce que ça, c'est une part du métier aussi
mais bien sûr.
Qui vous plaît?
Il est marqué dans les contrats que l'auteur doit participer à la promotion du livre.
Est-ce que ça vous plaît, Georges-Patrick?
C'est marqué dans les contrats. Donc les salons, ça fait partie du jeu. Moi, je fais 60 toujours de signatures par an, à peu près.
Ah ouais. Hein,
je tourne pas mal sur toute la France, à des grands salons, Brive, Saint-Etienne, etc., Nantes. Bon, et ça fait partie du jeu. Ouais. Il y a ceux que mon éditeur me trouve, où je vais, il y a ceux où je me trouve tout seul, où je vais, comme celui-là, par exemple, j'ai été invité, j'ai informé mon éditeur, c'est tout, mais ça fait partie du jeu de la diffusion du bouquin.
Et vous aimez ça?
Oui, on aime ça. C'est un peu une drogue, il y a une addiction là-dessus. Hein.
Oui. Marie-Chantal Villemin,
pareil. Moi, j'adore les salons. Et moi, je vais des fois dédicacer dans la montagne à la rencontre des gens qui n'ont jamais vu un auteur qui dédicace. Quoi. J'adore ça. Et puis, moi, je vais beaucoup en librairie aussi. Mais c'est vrai que les salons, c'est spécial. En plus, on rencontre plein de gens. Mais je rejoins toujours Georges, vraiment, parce que il faut. Moi, je suis pareil, je suis sur tous les réseaux sociaux. Bon, je suis journaliste professionnelle, hein, j'ai ma carte de presse. J'ai été journaliste pendant 20 ans, à l'agence France Presse, à Télé 7 Jours, enfin, beaucoup de... Et je sais comment on diffuse quelque chose, je sais comment on fait passer un produit. Mais là aussi, un produit... Pour les éditeurs, c'est un produit. Mais pour les éditeurs, c'est un produit. Il faut le reconnaître, Georges. Mais pour les auteurs, nous, on est à côté. Quoi. Nous, il nous faut... Nous sommes des petits-enfants.
Adrien Anderson.
Je rejoins mes deux confrères. Aujourd'hui, la qualité de l'ouvrage... est aussi importante que l'image de l'auteur, que l'image que va véhiculer l'auteur. Aujourd'hui, les gens, ils achètent des livres pas seulement pour le sujet, mais aussi pour la personne qu'ils vont avoir en face d'eux. Donc c'est très important de cultiver son image. Il faut être extrêmement vigilant. Il faut y passer du temps. C'est exactement ce que disait Georges-Patrick. Donc je pense que mon collègue va me rejoindre là-dessus aussi.
Alain Roquefort.
Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai trouvé une transition importante entre les deux éditions, entre les deux maisons d'édition. C'est que ma deuxième maison d'édition se charge justement de me trouver des salons de livres. m'envoie aussi dans des grandes surfaces, culturelles, etc.
Faire des dédicaces, des choses comme ça.
Faire des dédicaces dans les librairies, alors que la première maison d'édition ne s'en occupait pas du tout.
Ouais.
Donc, je rejoins un petit peu ce qui a été dit. L'image du bouquin passe aussi par la communication aujourd'hui.
Alors, eh bien, tiens, on va se quitter en communiquant une dernière fois un petit tour de table pour me rappeler, si vous voulez bien, à la fois le titre de votre roman et la maison d'édition. Et je commence encore une fois par vous, Marie-Chantal Guillemin.
Oui, alors, L'Inconnu de Salzbourg, aux éditions Ramsay.
Georges-Patrick Glaise.
Le Crépuscule des Justes, aux éditions Kalman-Lévy.
Adrien Anderson.
Le Cercle de Sept, chez Prémédite.
Alain Roquefort.
Un cri dans la nuit, chez Néobook.
Merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau radio sur CFM en direct de la fête des Vendanges. Et je vous laisse retourner au vrai travail qui est de rencontrer votre public et de signer des ouvrages. Vous êtes à peine à 20 mètres là du plateau CFM. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.